Je suis heureux d'être au milieu de vous, sans ma copine, avec qui nous avons divorcé à l'amiable.
Pour ceux qui
ne
savent pas.
Oui, pour ceux qui ne savent pas, oui. J'ai été pendant 45 jours coincé sur un coussin et j'ai la joie d'avoir les mains libres. Dans le livre des Nombres, au chapitre 6 et au verset 24 à 26, nous lisons ceci. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Lorsque vous entendez ces paroles, que faites-vous ou que dites-vous? Ouf, c'est terminé. C'était quand même assez long. Ou encore, que mangeons-nous à midi? Pourtant, ces paroles, Dieu les a données à Moïse pour que Aaron les prononce en son nom pour le peuple. Ainsi, le peuple d'Israël recevait, chaque fois qu'il se rassemblait devant Dieu, cette bénédiction de la part de leur Dieu. Et l'Église a bien compris la portée de cette bénédiction. C'est pour cette raison que nous nous bénissons mutuellement encore aujourd'hui. Il y a très longtemps, je me trouvais à l'Église à côté d'un frère âgé. Et lorsque le pasteur a prononcé ces versets à la fin du culte, il m'a dit « Tu vois Albert, lorsque ces paroles sont prononcées, je prolonge en disant, Seigneur, je reçois cette bénédiction pour moi et pour les miens. » Mettez sa main sur le cœur. Cette réflexion m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Et moi aussi, je fais de même. En préparant cette prédication, j'ai fait un petit sondage chez mes petits-enfants qui ont de 9 à 16 ans, avec ces deux questions. Qu'est-ce que le mot « bénédiction » veut dire pour vous? Et que veut dire le verbe « bénir » Alors je vous livre ce que j'ai recueilli. Pour le mot « bénédiction », ils m'ont dit « c'est une acclamation, c'est un remerciement, c'est une grâce, c'est une miséricorde. C'est une prière prononcée pour le bien des personnes pour la semaine à venir. » Ils m'ont aussi fait la remarque qu'il faut recevoir la bénédiction. C'est un choix que nous devons faire, ce n'est pas automatique. Et pour le verbe « bénir », j'ai proposé deux solutions. C'est lorsque Dieu bénit et lorsque les hommes bénissent. Pour la question « lorsque Dieu bénit », ils m'ont dit « il fait que nous ne manquons de rien ». Il gracie, il donne son amour pour les personnes, il donne du courage, il soigne les malades. Et il y en a un qui a dit « mais finalement c'est plein de choses à la fois ». Et lorsque les hommes bénissent, ils m'ont dit « c'est pour dire merci ». Il demande du bien ou le meilleur pour celui qu'il bénisse. C'est une preuve d'affection pour les personnes qu'on bénit. C'est un accompagnement. On demande que Dieu soit toujours avec la personne. Et encore, c'est une prière pour que la situation de la personne change à l'intérieur et à l'extérieur. Alors je trouvais que c'était pas si mal que ça. Le dictionnaire nous dit que la bénédiction, elle vient du latin benedictio, c'est l'action de bénir par la parole ou par le geste. Et le sens étymologique est dire le fait de dire du bien. Il dit par exemple, une prière de bénédiction est une courte prière destinée à remercier Dieu pour son aide et à le louer. Dans la religion chrétienne, le terme désigne également le geste effectué par les célébrants qui consiste à invoquer la bienveillance divine sur une personne ou sur toute l'assemblée. Dans la Bible, les patriarches bénissent leurs fils afin de leur transmettre la bénédiction et appeler sur elle la bénédiction divine. Ouais. Le mot bénédicité est utilisé pour la prière qui se récite avant un repas pour rendre grâce de la nourriture et l'appeler sur elle la bénédiction divine. Le terme est à l'origine du prénom Bénédicte et Benoît qui signifie Dieu béni. Dans la Bible, ce terme, bénédiction, apparaît 67 fois, 53 fois dans l'Ancien Testament, 14 fois dans le Nouveau Testament, et le verbe bénir s'y trouve plus de 220 fois. Voilà pour le dictionnaire. Et la Bible ? Que dit la Bible ? Dans la Bible, nous trouvons trois situations de bénédiction. La première, c'est quand Dieu bénit l'homme. La deuxième, c'est quand l'homme bénit Dieu. Et la troisième, c'est quand l'homme bénit l'homme. Quand Dieu bénit l'homme, le fait que Dieu bénisse exprime une faveur ou une place particulière qu'il accorde à un ou à plusieurs, selon sa grâce. Et ça commence tout au début de la Bible. Dans le premier chapitre, lors de la création, il nous est dit, Genèse 1, 27, 28, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Et l'exemple le plus caractéristique de la bénédiction divine est celui d'Abraham. En l'appelant à sortir de son pays d'origine, l'Éternel lui avait dit ceci. Quand j'ai lu ce verset vraiment tranquillement, je me suis dit que je n'ai jamais fait attention à tous les mots qu'il y a dans ce verset. Genèse 12, 2 et 3. L'Éternel lui dit, je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Une vraie pluie de bénédictions dans ce verset. Le projet de Dieu est que cette bénédiction se déverse sur toute l'humanité grâce à l'exemple d'Abraham. Dieu le réaffirme un peu plus loin dans Genèse 22, quand Abraham avait déjà quitté son pays. Genèse 22, 18. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Cette bénédiction est donc conditionnée par l'obéissance d'Abraham. Et elle sera conditionnée plus tard par l'obéissance d'Israël. Il leur dira, « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous écoutez les commandements de l'Éternel et la malédiction si vous n'écoutez pas les commandements de l'Éternel. » Il y a cependant, on pourrait dire presque un changement dans le Nouveau Testament. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de bénédiction. Mais en contraste avec les bénédictions de l'Ancien Testament qui sont le plus souvent matérielles, nous lisons que les patriarches avaient de nombreux troupeaux, la bénédiction était plus visible. Le Nouveau Testament nous présente la bénédiction de Dieu pour l'Église comme étant d'ordre spirituel. Éphésiens 1, 3 nous dit « Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Finalement, la bénédiction promise à Abraham se réalise pleinement par la venue de Jésus, par sa mort et sa résurrection. Quand l'homme bénit Dieu, nous l'avons fait ce matin, nous l'avons exprimé en parole, en chant, et de très nombreux passages bibliques utilisent l'expression « bénir Dieu ». L'idée fondamentale « dire du bien » est toujours présente. Il s'agit de bonnes paroles adressées à Dieu, qui rappellent qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a donné. Et l'expression que nous connaissons tous, psaume 103:2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et Paul commence toujours, presque toujours ses lettres par « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour bénir Dieu, ce n'est pas notre élocution qui est importante, mais ce qu'il y a au fond de notre cœur et qui s'exprime par des mots tout simples. Voilà comment nous bénissons Dieu. Et quand un homme bénit un homme, l'idée de dire du bien est toujours présente. Nous l'avons dit tout à l'heure, ça, elle commence par les patriarches qui prenaient un grand soin de bénir leur postérité. Nous voyons Isaac bénir Jacob et Ésaü, même si ça s'est passé un peu sournoisement. Nous voyons Jacob bénir ses 12 fils. Plus tard, nous voyons Moïse bénir les 12 tribus d'Israël. C'est vraiment une continuité, comme pour dire ne pas perdre ce trésor. Après, nous voyons les sacrificateurs, les conducteurs d'Israël, les rois, les juges avant, les rois ensuite, Jésus. La loi donnait aux sacrificateurs l'instruction. Vous bénirez ainsi les fils d'Israël en leur disant « L'Éternel te bénisse et te garde ». David a offert des sacrifices, puis il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Salomon a fait construire le temple, il fait la prière de dédicace et après Salomon bénit le peuple. Il se tint debout et bénit à haute voix toute la congrégation d'Israël. Et que dire de Jésus ? Au moment où il a été élevé dans le ciel, il a levé ses mains et a béni ses disciples. Et enfin, la bénédiction que nous, enfants de Dieu, nous pouvons faire les uns pour les autres. Dans ce cas, la bénédiction est utilisée pour exprimer de bonnes paroles adressées par une personne à une autre, et aussi le souhait de demander la bénédiction divine sur nous, sur nos contemporains, sur nos frères et sœurs. Et ça s'est pratiqué durant toute la Bible. Je cite un exemple de l'Ancien Testament, la famille de Rebecca, qui bénit leur fille et leur sœur avant de partir pour le mariage. Jésus nous montre l'exemple, il bénit les enfants et il enseigne les disciples à bénir. Écoutez ce qu'il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Il est en train de dire, allez jusque-là dans votre bénédiction. Et j'aime aussi celle de Pierre qui encourage, 1 Pierre 3:9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. En somme, si nous sommes des hommes et des femmes qui bénissent, il y a un retour. Retour de la bénédiction du Seigneur. Nous voyons encore comment Dieu est à cette esprit de bénédiction. Avant de créer l'homme, quand il a créé les animaux et les oiseaux, il nous est dit, Dieu vit que c'était bon et il les bénit. Autre chose encore, le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fait un jour saint. Cela nous rappelle que nous sommes appelés à le respecter. Et Jésus encore, au moment d'instituer la scène, il prend du pain et il bénit le pain. La bénédiction de Dieu est donc le bien le plus précieux que nous pouvons recevoir. Et à ce stade de ma préparation, je me suis posé des questions sur la bénédiction. Alors je les ai notées, j'en ai noté 6. Et quand il a fallu donner des commentaires, j'ai mouillé ma chemise parce que je ne voulais pas les éviter. Je me suis posé la question, qui veut être béni? C'est facile. La bénédiction de Dieu est-elle voulue? C'est facile. La bénédiction est-elle visible? Déjà plus dur. Est-elle une conséquence des œuvres? Est-elle compatible avec la croix? Et quels sont les obstacles à la bénédiction? Nous allons essayer de voir ces 6 points ensemble. Qui veut être béni? Je vous pose la question. Qui veut être béni? Dieu soit loué, vous êtes presque tous normaux. Nous sommes là en Église pour vivre la communion fraternelle, écouter la parole de Dieu et recevoir sa bénédiction. Nous sommes là aujourd'hui pour ça. Alors, puisque nous voulons tous la bénédiction, nous sommes aussi d'accord pour répondre aux exigences que demande la bénédiction. Je rappelle, là, Deutéronome 11, « Écoutez, aujourd'hui, je vous donne le choix entre la bénédiction et la malédiction. Aujourd'hui, je vous donne les commandements du Seigneur votre Dieu. Si vous obéissez à ces commandements, la bénédiction sera sur vous. » C'est un fait. Elle n'est donc pas automatique. Nous verrons un peu plus loin ce qui peut empêcher la bénédiction. La bénédiction est-elle voulue de Dieu? Oui, bien sûr. Nous l'avons souligné tout à l'heure, dès le début. Un inventeur veut toujours que sa création ait du succès. Prenons l'exemple très récent de Frankie Zapata, qui a inventé le flyboard. Vous l'avez sûrement vu à la télévision ces dernières semaines. Il a volé sur son drone, debout sur son drone, sur les Champs-Élysées, le 14 juillet, et il a traversé quelques jours plus tard la Manche sur sa création. Pouvez-vous vous imaginer un seul instant que cet homme ne chérisse pas son invention? Et notre Dieu? La Bible, elle nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Comment pouvons-nous penser que Dieu ne veuille pas nous bénir? La bénédiction est-elle visible? Dans l'Ancien Testament, nous pouvons répondre par l'affirmative. En effet, lorsque les textes parlent de bénédiction, ils font souvent mention de richesse. Dieu a fait prospérer ceux qui lui étaient fidèles. Nous le découvrons tout au long de l'histoire des patriarches et celle d'Israël. Dieu avait choisi et béni ce peuple pour montrer aux nations sa grâce et son amour. Dieu avait choisi et béni ce peuple. Non, pardon. Il voulait que les nations comprennent qu'il y avait une différence entre lui et les idoles. En quelque sorte, Dieu voulait susciter l'envie d'être béni. Et nous avons dans la Bible de nombreux textes qui affirment que des hommes, des rois, des peuples se sont tournés vers le Dieu des Israélites et l'ont adoré parce qu'ils ont vu la bénédiction de leur Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons lu tout à l'heure que la bénédiction, elle est plutôt spirituelle. Un exemple tout simple, les parents de Jésus. Ils étaient bénis. Vous le croyez? Moi, je le crois. Il n'était cependant pas riche. Et à la naissance de Jésus, ils sont même obligés de fuir pour sauver la vie de leur enfant qui était béni. Et les textes ne nous disent pas qu'il y a un seul des disciples qui est devenu un riche propriétaire. Il y a donc une autre dimension de bénédiction dans le Nouveau Testament. Et tout à l'heure, nous avons entendu une prière montée dans ce sens. L'un de vous a dit, je suis riche, je suis devenu riche. La bénédiction est-elle une conséquence de nos œuvres ? Oui et non. Cela dépend de l'esprit dans lequel nous accomplissons les œuvres. Si nous sommes dans le plan de Dieu et dans sa volonté, la bénédiction nous est accordée pour nous accompagner dans la mission. Mais la récompense nous attend là-haut, dans le ciel. Donc il ne faut pas confondre bénédiction et récompense. Nous avons tous reçu des talents. Si nous les faisons fructifier, eh bien nous savons ce qui nous attend. Entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Et cela ne se produit pas si nous enterrons nos talents. La bénédiction est-elle compatible avec la croix ? Emmanuel, tout à l'heure, y a fait allusion en introduisant un chant. Merci d'avoir mis cette note. Et pour répondre, je voudrais m'appuyer sur un écrit de Jean-Jacques Dubois, commentateur suisse de la Bible. Il nous dit ceci. Le contexte de la bénédiction est celui d'une bataille et d'une tempête. Deux royaumes, celui de la lumière et celui des ténèbres, se disputent nos vies, dont Dieu veut être l'unique seigneur, l'unique propriétaire. Après tout, la prédication de l'Évangile n'a-t-elle pas pour but de faire passer les hommes des ténèbres à la lumière ? Interprétons correctement les circonstances de notre pèlerinage terrestre. La vraie sagesse, donnée de bon cœur par Dieu à ceux qui la lui demandent, consiste d'abord à ne pas se regimber contre l'épreuve, mais à savoir souffrir. Cette sagesse nous fait voir la finalité de l'épreuve, son résultat, et nous permet de supporter sans nous plaindre les désagréments, les souffrances, les contrariétés du moment présent. Dieu cherche notre bien à travers ce qui nous paraît le plus contraire. Il est vrai que tout châtiment, il cite la Bible, Hébreux 2, 12, 11, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui en ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Et il conclut, la croix ne fait pas fuir la bénédiction, serrons-nous les coudes pour soutenir ceux qui sont éprouvés afin que la bénédiction triomphe. Sixième point, quels sont les obstacles à la bénédiction ? Nous l'avons vu tout au début, dans les deux premiers versets que nous avons lus, la désobéissance et l'idolâtrie. Je rappelle Deutéronome 11, 28. Mais supposons ceci. Vous n'obéissez pas à ces commandements, vous abandonnez le chemin que je vous montre aujourd'hui, vous suivez d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Dans ce cas, la bénédiction ne sera pas sur vous. Tout l'Ancien Testament contient des exemples, et en particulier le livre des Juges nous relate le comportement du peuple de Dieu. Prospérité, désobéissance et idolâtrie, bénédiction perdue, repentance, retour à Dieu sont les méandres de ce livre. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est la spirale de la désobéissance, du manque de nourriture et de communion fraternelle qui font place à nos idoles qui s'installent doucement chez nous. Nous n'avons pas les mêmes que les idoles de l'Ancien Testament. Deuxième cause, l'alliance rompue. Je ne vais pas m'étendre sur l'alliance puisque Luc Sadorge nous en a parlé le 4 août dernier. Vous pouvez réécouter cette prédication. Ce n'est pas difficile à comprendre, une alliance rompue. Qui d'entre nous n'a pas fait des alliances entre jeunes copains en se jurant fidélité dans l'amitié? Et ça a malheureusement souvent capoté. L'alliance rompue, c'est tout simplement Jésus, notre Sauveur, qui a perdu la première place chez nous, chez moi. Troisième cause, nous avons déjà parlé aussi, c'est les talents enterrés. Jésus a consacré une parole à ce sujet, parabole entière à ce sujet. Dans son royaume, il veut que nous soyons tous acteurs, en faisant fructifier ce que nous avons reçu en cadeau. Il arrive cependant que nous pensons que nos pierres ne sont pas utiles à l'édifice. Dieu veut nous associer à son œuvre terrestre et pour ce faire, il nous a donné gratuitement des dons, non pour nous enrichir, mais pour enrichir le royaume de Dieu. Tous les talents qu'il a distribués à ses enfants sont utiles à son plan de salut, même les vôtres. Quatrième obstacle, la négligence de la dîme. C'est Malachie qui nous en parle. Et je vais vous lire le texte. Il dit « Revenez donc à moi, et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel. » Et vous dites « Comment devons-nous revenir ? Un homme peut-il voler Dieu ? Pourtant vous me volez, et puis vous demandez « En quoi t'avons-nous volé ?» Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous le comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Nous avons tous toujours des urgences budgétaires. Mais si nous retenons la dîme, Malachie nous dit que Dieu retient aussi la bénédiction. Dernier point, dernier cas. Refus de pardonner. Jésus y consacre aussi une parabole. Si vous voulez la lire, elle se trouve en Matthieu 18, 23 à 35. Chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur, la scène, le pardon nous est rappelé. La prière du Notre Père que Jésus a dictée nous rappelle le pardon. Nous devons toujours avoir l'objectif du pardon. C'est la volonté de notre Dieu. Je voudrais cependant rappeler que pour pardonner des événements graves, il faut vous faire aider. Et surtout ne pas brûler les étapes du vrai pardon. Nous avons consacré un culte à cela le 25 novembre dernier. Vous pouvez le retrouver sur le site ou me demander et je vous l'imprimerai. Pour conclure, nous sommes tous d'accord, nous voulons être bénis. La balle est dans notre camp, la bénédiction est donnée, à nous de la conserver. Notre Seigneur veut que nous soyons tous acteurs pour que la bénédiction de notre Dieu soit connue, vue et comprise. Il veut que la parole de Genèse 12, 3, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi », se répandent encore aujourd'hui autour de nous. C'est à nous tous de faire perdurer cette bénédiction donnée à Abraham. Recevons ensemble la bénédiction de Dieu. Bénissons Dieu dans toutes les circonstances. et bénissons-nous les uns les autres. Bénissons nos semblables. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen.